pour investir, le déchiffrage.
Omar Dibo, Fineco, bonjour.
Et bonjour.
Et Alexandre Baradez d'IG, merci d'être là en direct ce matin et en plateau avec nous. C'est vrai qu'on note ça depuis la fin de la semaine dernière. C'était très amusant quand on regardait ça avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse l'après-midi. On voyait des pointes du pétrole au-delà des 100 dollars. D'un coup, le marché décale à la baisse. Normal. Et puis, au fur et à mesure, le pétrole reste ferme et le marché remonte. On avait vraiment l'impression qu'on était avec des marchés qui étaient en train de s'injecter du pétrole à 100 dollars pour s'immuniser. Mmh. Et puis là, on est à 103 dollars et le CAC 40 décolle d'1%. Est-ce qu'on n'assiste pas à un phénomène de vaccin contre le pétrole cher à court terme, bien sûr, sur les marchés?
Alors, moi, j'ai moins ce sentiment. Alors, effectivement, on note que le marché est un peu plus résilient à des prix plus élevés du pétrole, mais quand on regarde toute la séquence début des événements en Iran, c'est quand même le driver, c'est le pétrole, et qui a influencé toutes les classes d'actifs. Les taux, quand en gros le pétrole monte, les taux se redressent. Du coup, les valeurs orientées économie, macroéconomie se tassent. On a la tech un peu plus résiliente, du coup, un peu moins sensible à ces questions géopolitiques. On a le dollar qui s'était renforcé. Donc, tout est très, très liés. Et quand le pétrole rebaissait, eh bien, le risque on revenait un petit peu pendant quelques temps sur les indices et les taux se détendaient. Moi, quand je regarde sur le terrain, tout part du terrain. Est-ce que sur le terrain, on a le sentiment que les choses sont en train de changer drastiquement au point qu'on se dise, bon, ben, ça y est, cette phase-là est déjà en train d'être digérée par le marché? Moi, j'ai encore rien vu pour l'instant. Peut-être qu'on aura aujourd'hui ou demain des éléments peut-être plus concrets. Mais quand vous voyez qu'il y a toujours des projectiles de différentes natures qui partent de l'Iran sur les pays voisins, qui ciblent très clairement les infrastructures pétrole, des terminaux, des ports, ou ce genre de choses, que le trafic aérien est encore parfois interrompu, puis reprend, et puis, ce qu'il faut dire, le revers américain par rapport à l'aide demandée aux autres pays, ça donne l'illustration d'une situation qui est extrêmement mouvante. Et on voit que les déclarations de l'Iran, encore ce matin, ne vont pas dans le sens, pour l'instant, d'un apaisement ou d'une ouverture à la discussion. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des canaux de discussion qui sont ouverts en off, peut-être que ça discute déjà un petit peu, mais publiquement, en tout cas, on ne voit aucun signe, à la fois en termes d'action sur le terrain, et à la fois en termes d'éléments de langage, de déclaration. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que la volatilité qui se détend un peu, le pétrole qui se détend, à ce stade, je vois plutôt ça comme des phénomènes un peu court terme, mais je n'ai pas la conviction qu'on soit déjà en train de basculer sur un marché qui aurait fait son bottom et qui repartirait vers de nouveau plus haut.
Oui, Omar, c'est votre sentiment aussi, la poussière est peut-être pas forcément retomber définitivement?
Clairement, je partage tout l'avis d'Alexandre. Après, moi, mon ressenti, c'est celui que j'ai toujours montré quand je suis venu il y a deux semaines ici, c'est-à-dire il faut juste faire preuve de patience, avoir beaucoup plus d'éléments et de faits. Maintenant, moi, il y a eu deux vrais game changers, on va dire, depuis le début du conflit. Le premier, c'est l'intervention du G7 en disant qu'ils allaient, entre guillemets, relâcher beaucoup plus de barils de leurs réserves stratégiques sur le marché. Donc ça, c'est le premier signal positif. Il y a un deuxième signal qui est un peu plus discret, c'est celui de l'intervention du Trésor américain sur le marché du baril, dans le sens où ils l'ont shorté, très clairement.
Ça, c'est fou.
Et ça, c'est incroyable. Mais bon, ça, c'est les gens oublient que Scott Bessent est un petit peu l'élève de George Soros, donc ce n'est pas du tout étonnant.
Ce qui est un peu contre-intuitif, hein, étant donné que Trump n'aime pas forcément la doctrine Soros, mais...
C'est ça. Ouais, c'est tout le sujet. Et puis l'autre signal pour moi qui a été très important, c'est le décès de Larry Johnny, qui est vraiment le chef de l'intelligence iranienne. Parce que le signal qui est un petit peu envoyé par tout ça, c'est de dire qu'on n'a pas nécessairement envie de se mettre autour d'une table.
Ouais.
Voilà. Signal qui est très fort, je trouve. C'est-à-dire que l'on a envie d'aller jusqu'au bout, d'essayer un petit peu de couper toutes les têtes, entre guillemets, et d'en finir par la manière forte. Donc c'est, pour moi, je suis un petit peu d'accord vraiment avec ce que dit Alexandre. C'est-à-dire qu'on est plus dans une situation où on n'est pas en train de voir la poussière retomber. On est plus dans une situation où on n'a pas nécessairement envie de sortir du marché parce que l'IA est là, on a beaucoup d'opportunités potentiellement avec le temps.
Et on va en reparler.
Exactement, ouais. Et on va en reparler. Et de l'autre côté, on est conscient que pour l'instant, la seule chose que les marchés sont en train de pricer, c'est une potentielle stagflation et pas nécessairement une récession.
Bon, là, on a quand même des indications. Enfin, ça reprend les patterns un peu qui sont décrites en ce moment. Alexandre, il y a un phénomène qui est assez intéressant finalement. On voit des grosses institutions qui veulent garder le marché du pétrole à peu près sous contrôle, à peu près liquide. Là, on va avoir une semaine où ça va être aux banques centrales de nous dire gentiment et sans paniquer tout le monde, on est là aussi et on va soutenir le marché. Bref, là, on va sortir les perfs également du côté de la Fed, du côté de la BCE sans doute aussi, avec une inquiétude de fond qui est que sur les marchés, on joue à se faire peur avec des possibilités de hausse de taux qui sont pricées hein, du côté de la BCE, du côté des taux européens.
Oui, oui, et c'est probablement pour ça que vous avez en tout début de semaine la Banque des règlements internationaux, donc BIS, qui est un peu la banque des banques centrales.
La banque des banques centrales, voilà.
Et qui a envoyé un message clair invitant les banques centrales à ne pas réagir par rapport à un choc d'approvisionnement, mais qui serait uniquement dû à des raisons géopolitiques. Mmh. Et c'est bien de le rappeler parce que c'est de l'avis de beaucoup d'observateurs. C'est très différent ce que nous vivons actuellement avec uniquement des prix d'énergie qui sont partis à la hausse, alors qu'à l'époque, post-Covid, vu qu'on fait que Christine Lagarde a fait référence à cette période-là, en indiquant qu'elle n'autoriserait pas qu'un tel événement se reproduise, mais ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était extrêmement différent. Les banques centrales avaient doublé la taille de leur bilan en l'espace de quelques trimestres. La demande était absolument gigantesque. C'était la consommation revancharde, on avait appelé ça, parce que les gens confinés, une fois qu'ils étaient déconfinés, ils voulaient dépenser leur épargne. Et donc, il y avait à la fois une demande forte, des problèmes de supply chain, énergie, qui grimpait depuis quasiment le bottom 2020, donc pendant quasiment 2 ans de hausse ininterrompue des prix d'énergie. C'est ça l'inflation et ouais. Les salaires qui avaient suivi. Là, c'est pas du tout la situation macro actuelle, hormis l'énergie qui est plus chère. Donc, et ils ont bien fait de rappeler ça avant tout ce set de banques centrales qu'on va avoir ouais. Et qui commence avec la Fed. Pour la Fed, pas faire trop long, il y aura 2 sujets qui vont être intéressants. Tout d'abord, voir comment la Fed, dans son ensemble, perçoit le risque inflationniste. Y a-t-il déjà un risque inflationniste qui est perçu ? Ils vont nous rappeler que l'inflation sous-jacente n'est pas encore confortable. 3,1, on l'a vu, hein, l'inflation PCE est sous-jacente. Hein, donc, c'est vraiment la mesure principale. C'est trop élevé pour pouvoir dire on va vraiment y aller sur le terrain des baisses de taux dans peu de temps. Mais ça va être intéressant de voir comment ils placent le pétrole là-dedans en termes d'impact. Et l'autre élément qui va être intéressant, c'est est-ce qu'ils vont hedger un peu le risque inflation en parlant peut-être d'un peu des risques pour la croissance et l'emploi. C'est-à-dire, si on ne veut pas trop impacter non plus le marché en termes de sentiment, dire on est vigilant à l'inflation ou autre, mais on est aussi symétriquement vigilant à la croissance et à l'emploi, on ne veut pas que la situation devienne un risque pour la croissance. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être ajouter les taux s'il y a besoin. Mmh. Et dans ce cas-là, la réunion se passerait plutôt bien. C'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'ils couvrent un peu leur double déclaration ou est-ce qu'ils vont plus sur le côté inflation, ce qui là serait plus problématique pour le marché.
Et la BCE, enfin, les traders, ils jouent à se faire peur, là, ou à nous pricer 2 hausses de taux avant la fin de l'année. Je dois vous dire que j'arrive pas à comprendre. Et puis, voilà, on en parlait aussi avec Christopher Dembig de Pictet d'IA, il ne comprend pas bien le truc non plus.
Je ne comprends pas non plus parce qu'on est sur le 3e mois consécutif d'inflation harmonisée à l'échelle européenne à moins de 3%. 1,7, d'abord 1,9, 1,7 puis 1,9. Ouais. Donc, on n'est pas du tout dans la situation des États-Unis. On a l'objectif, on est un petit peu en dessous. Donc oui, il y aura forcément peut-être des éléments un peu mensuels sur le baril, mais brandir dès maintenant le risque de relever les taux alors que ça fait 3 mois qu'on est sous l'objectif et qu'on a toujours quelques fragilités à l'échelle européenne, ça ne semble pas être effectivement le message le plus pertinent à envoyer.
Mais en fait, la BCE se retrouve dans la situation totalement inverse de la Fed. C'est-à-dire que la Fed, on la presse de baisser ses taux alors qu'il y aurait plutôt des raisons de les remonter. Et là, du coup, les marchés pressent la BCE en termes de dynamique sur les taux d'intérêt en pricant des hausses de taux alors que personne n'en a besoin. Au contraire, le flou demeure.
Moi, je vais être très franc, je ne comprends absolument pas la communication ni de la BCE ni de la Fed. C'est-à-dire que d'un côté, on a une Fed qui ne parle pas. D'accord. Powell ne s'est toujours pas exprimé, n'a absolument rien dit alors que... On verra ce soir, mais d'habitude, la Fed est une institution qui, normalement, fait beaucoup de forward guidance. Aujourd'hui, on n'en a pas. D'accord. Ça a été le cas l'année dernière également, quand on a eu les problématiques entre février et avril. Powell n'a absolument rien dit. Donc, des fois, on se demande si ce n'est pas nécessairement une problématique que l'on a avec Trump. Et puis, de l'autre côté, on a une BCE qui est très interventionniste en termes de communication. Moi, sincèrement, j'ai été un petit peu étonné d'entendre des hausses de taux attendues parce que quand on regarde vraiment les deux locomotives que sont la France et l'Allemagne, on est sur des deux pays qui n'ont plus assez de croissance. Et des hausses de taux seraient problématiques pour ces deux pays-là. Bah oui. Moi, sincèrement, si j'étais à la BCE, je prônerais plutôt l'attentisme et puis surtout d'être un peu plus data-dependent, mais je comprends un petit peu le fait qu'ils soient vraiment focus sur leur mission, c'est-à-dire 2% d'inflation. Et je pense que c'est très difficile de se projeter quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le conflit et surtout sur ce qui peut potentiellement nous attendre sur ce terrain-là.
Oui, alors il y a toute une sphère qui joue son jeu vidéo et qui le joue très bien en ce moment, c'est l'IA. On a eu en début de semaine quand même la réunion d'analystes d'Nvidia. Donc, on sort les gros chiffres, on sort la grosse artillerie, là aussi, 1000 milliards de dollars de carnet de commandes. On a l'impression que rien, même la troisième guerre mondiale, entre guillemets, n'arrive à entraver les dynamiques de croissance d'Nvidia. J'allais presque vous dire, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Moi, j'ai plutôt l'impression de voir un peu Elon Musk. il y a quelques années. C'est le sentiment que j'ai. Donc moi, c'est juste un petit peu une question mathématique. C'est-à-dire qu'on a des montants qui sont effarants, mais de l'autre côté, on a déjà des Max 7 qui utilisent plus de 80% de leur cash flow généré pour investir dans les CAPEX. Et on arrive pourtant à des revenus pour Nvidia qui dépassent à peine les 250 milliards de dollars annuels. Donc la vraie question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on pourrait atteindre ce type de montant-là. Donc le vrai sujet, et c'est celui que je n'arrête pas de ressortir depuis plusieurs mois, c'est celui du financement d'IA. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces Max 7 vont devoir s'endetter. La question du coup qui va sortir par rapport à ces endettements-là, c'est comment vont-ils faire pour gérer de tels montants empruntés sur les marchés. Est-ce qu'ils vont les titriser? Est-ce qu'ils vont les sortir des bilans? Et c'est d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit avec Meta qui récemment a fait une joint venture avec Blue Owl pour gérer un data center qu'ils ne détiennent pas finalement à 100%, ils le détiennent uniquement à 20%. Donc on sort un petit peu toutes ces dettes-là des bilans. La vraie question qui va se poser par la suite, c'est un, comment va se dérouler ce financement-là? Et deux, à quel niveau d'opacité on va avoir droit?
En parlant d'opacité, il y a une problématique qui est quand même en train de rentrer dans tous les scopes, et même au niveau européen, même si c'est né aux États-Unis, celui de la dette privée. Est-ce que on sent, est-ce qu'il y a des implications, des conséquences chiffrées autour peut-être du cours de certaines institutions financières, du côté des dynamiques de taux d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de s'inscrire, qui est feu orange sur la dette privée?
Oui, il y a beaucoup, le fait d'en parler, qu'on en parle un peu partout maintenant, ouais. Surtout quand on voit que, et ça on peut trouver ça dans des cycles parfois qui sont un peu matures, c'est-à-dire qu'on a vu que justement ces fonds-là, notamment se sont récemment ouverts au grand public, en cherchant un peu de la liquidité, en faisant appel à l'épargne publique, sachant que la communication n'était pas forcément adaptée. On sait très bien que la tolérance en termes de durée d'un placement pour un particulier est beaucoup moins forte que la tolérance d'un institutionnel qui connaît parfaitement le secteur et qui est prêt à s'engager sur les 10-15 ans des deals de cette nature-là sur la dette privée. Donc c'est vrai, quand on voit plusieurs particuliers qui sont rentrés sous ces produits-là et aujourd'hui sont ceux qui peut-être veulent ressortir et que ces fonds limitent évidemment les capacités de sortie, c'est vrai que j'ai quand même souvenir qu'à chacune quasiment des grosses crises qu'on a traversées, que ce soit la bulle internet ou les subprimes ou autres, on a souvent vu une phase, alors je ne dis pas qu'on est au devant de ça, ce n'est pas mon sentiment, mais il y a toujours une phase où il y a eu quelque part un produit qui était devenu moins liquide à un moment donné, des fonds qui ont été gelés temporairement, et c'est malheureusement souvent des choses qu'on remarque dans une phase un peu de maturité et avant qu'il y ait un peu de volatilité sur le secteur concerné. Donc, peut-être que c'est temporaire, mais l'histoire nous a montré que les problèmes un peu de rachat de positions, quand on voulait dans certains fonds où la liquidité venait à manquer, ça s'inscrit plutôt dans des phases un peu excessives, un peu spéculatives, et c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est que ça va pas, moi mon sentiment c'est que ça va pas disparaître tout de suite, et les banques centrales déjà il y a quelques années disaient on est quand même assez regardante à ce secteur d'aide privée, parce que c'est shadow banking ou autre, c'est des secteurs qui ont très très largement progressé et un petit peu en dehors du scope de régulation habituelle des institutions.
D'autant que c'est marrant, vous parlez de shadow banking, c'est un terme qu'on n'entend plus d'ailleurs. Finalement, c'est ce phénomène de la boîte noire, de la non-visibilité, de la non-liquidité de manière générale. Mais c'est peut-être ça qui fait peur et c'est peut-être ça qui provoque la crainte de la peur, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger fondamental. Là, tous nos analystes nous disent non, c'est très circonscrit, c'est très américain. Il y a un peu de fond en provenance d'Europe qui vient traîner dans cette affaire-là, mais enfin, pas de quoi faire exploser tout le monde. Et malgré tout, et on l'a vu aussi concernant les subprimes ou les investissements dans la tech réalisés par les banques régionales américaines qui ont tout explosé, la Silicon Valley Bank, etc. C'est la crainte de la peur, finalement, qui peut faire exploser la crise.
Oui, pour moi, enfin, la question de la dette privée, je l'ai parce qu'on m'a beaucoup de fois posé la question, mais moi, mon avis est que c'est un secteur qui est assez isolé, c'est un secteur qui va très lentement. La seule chose qui fait peur, il y a deux éléments. Le premier, c'est son opacité, donc ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est l'effet de contagion, c'est-à-dire on sait très bien qu'il prête à des sociétés qui ne sont pas nécessairement cotées, donc le vrai impact, finalement, ça va être de savoir quel est l'impact sur l'économie. Est-ce que ces sociétés-là vont peut-être fermer boutique? Et donc cela peut avoir nécessairement des impacts sur des licenciements, sur du chômage supplémentaire, etc., etc., etc. Et surtout, quand on voit l'exposition que l'on a sur les secteurs, notamment du software, qui sont un petit peu dans l'œil du cyclone avec l'IA. Donc le vrai sujet, ça va être de savoir véritablement les effets de contagion et les effets sur l'économie. Mais de là à dire que l'on a en face de nous un scénario à la 2008, je trouve que c'est un petit peu exagéré.
Oui, sans doute. Alexandre, ce CAC 40 qui arrive quand même à se maintenir à 8000 points malgré les incertitudes, les cours du pétrole. L'indice VIX qui revient à 21 points, c'était le niveau d'avant le début des hostilités vis-à-vis de l'Iran. Ouais, il n'y a pas quelque chose qui est un petit peu, qui est un petit peu anxiogène là-dedans?
Non, anxiogène, géographiquement, je distinguerais deux zones quand même. Ouais. La partie européenne, on a quand même des corrections indicielles qui ont la plupart du temps dépassé 10%, oui. La plupart des gros indices par rapport à leur point haut récent. Mmh. Certains indices, même 12-13%. Donc ça, d'un point de vue opportunité pour un investisseur qui regarde à moyen terme, les trous d'air de plus de 10%, c'est généralement de belles opportunités. Ouais, il faut y aller, il y a même des secteurs, les banques qui sont un peu tendues, qui ont relâché. C'est quelqu'un qui regarde à 2-3 ans, pas trop de soucis pour y aller dans ce genre de trous d'air. La question, c'est est-ce que de 12% ou de 10% on ne peut pas passer à 15 ou 20? Et c'est là que je regarde du côté des États-Unis, où là, je trouve, en revanche, on sait pourquoi ça a moins corrigé un peu le côté valeur refuge, valeur américaine, dollar qui monte. Donc on préfère vendre un peu les indices asiatiques ou autres, l'Europe, et on reste, on va un peu plus légèrement la partie américaine, mais pour autant, cette partie américaine était la plus chère avant les niveaux de correction. Il y a toujours des gros enjeux domestiques, inflation non maîtrisée, les questions commerciales, la Cour suprême qui a retoqué, des interrogations sur le consommateur, on voit des ventes de détail un peu moins bonnes depuis 2 mois. Donc je dirais que ça, selon moi, il y a résilience liée au stress géopolitique, mais la limite avec la complaisance me paraît assez proche, en fait. Et je trouve que 7% de correction sur le SP500 depuis son plus haut, face à tout ce flot d'infos, tant mieux, c'est résilient, mais est-ce que c'est pas aussi un peu complaisant? Et moi, je serais plus à l'aise avec un 10-15, où là, on aurait des niveaux, je dirais, un peu plus confortables en termes de valo, et surtout sur des supports qui seraient un peu plus visibles qu'actuellement.
Voilà, être vigilant côté américain, et puis, prendre acte de notre résilience en Europe. Alexandre Baradez-Digé, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin au Mardi Beau. Fineco, merci également.